France Inter.
Et c'est le journal de Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Simon, bonjour à tous. À la une ce matin, les eaux troubles de la Seine. À moins de 4 mois des Jeux Olympiques, le fleuve n'est toujours pas baignable. Encore beaucoup trop de bactéries dans les prélèvements réalisés par la fondation Surfrider. Détail dans un instant. Du shit chez Madame la maire d'Avallon. Elle est en garde à vue avec ses frères depuis hier. Savait-elle que 70 kilos de hashish se trouvaient chez elle? L'enquête va devoir le déterminer. Dans ce journal aussi, reculer pour mieux sauter, l'armée israélienne se retire de Khan Younes et prépare l'offensive de Rafah.
Et 6 mois de guerre à Gaza, 6 mois après les attaques terroristes du 7 octobre. Nous en parlerons dans le grand entretien de la matinale à 8h20 avec 3 invités. L'éditorialiste Sylvie Kaufmann, le spécialiste d'histoire militaire Michel Goya et le journaliste de Libération Dovalfon. Vos questions, vos réactions, amis auditeurs, 01 45 24 7000 et sur l'application France Inter.
D'ici là, le monde du spectacle vivant est en émoi face aux économies du ministère de la Culture, on va l'entendre. On parlera aussi du succès des pièces détachées d'occasion pour réparer sa voiture. Forcément, c'est beaucoup moins cher. Et puis, on a échangé, parlé musique avec Françoise Hardy à l'occasion de la sortie d'une double compilation agrémentée de quelques raretés.
France Inter.
Alors cette baignade, c'est pour quand? Dans la Seine, à Paris, on en rêve depuis plus de 30 ans. Jacques Chirac avait promis, sans jamais y mettre un orteil, on s'en souvient, Emmanuel Macron a pris la suite. J'irai, a-t-il dit récemment, puisque théoriquement, tout a été fait pour rendre le fleuve suffisamment propre et permettre l'organisation des épreuves de triathlon et de natation en eau libre cet été, pendant les Jeux Olympiques. Problème, l'échéance approche et la Seine n'est toujours pas baignable. Bonjour Célia Quiret.
Bonjour Florence.
La Fondation Surfrider, qui agit d'habitude pour la qualité des eaux du littoral, est catégorique. Elle fait des prélèvements régulièrement depuis le mois de septembre.
Oui, et parmi les 14 prélèvements réalisés au niveau du pont de l'Alma et du pont Alexandre III, 13 sont mauvais. La présence de certaines bactéries E. coli ou entérocoques dépasse les normes fixées par la Fédération internationale de natation. L'ONG Surfrider a l'habitude en effet de contrôler la qualité des eaux. Marc Valmassoni interpelle le comité des Jeux et la mairie de Paris.
Entre quasi 2 et 3 fois au-dessus des normes minimum impératives en fait pour une pratique saine, en tout cas des athlètes pendant la saison. En termes sanitaires, c'est-à-dire qu'ils sont plus exposés, ils peuvent contracter en fait une pathologie, donc de la gastro-conjonctivite, otite, problème de cutané. Il faut envisager un plan B par rapport en fait à la natation.
Alors, la mairie de Paris et la préfecture qui nous écrit à l'instant comptent bien sûr sur le nouveau bassin de rétention tout près de la gare d'Austerlitz pour stocker les eaux de pluie et limiter la pollution de la Seine. Il doit fonctionner bientôt, mais pour l'ONG, pas sûr que ce soit suffisant.
Ça laisse une chance s'il y a des épisodes pluvieux qui sont modérés. Le bassin ne pourra pas en fait stocker s'il y a une pluie importante. L'ensemble du ruissellement qui peut se passer s'il y a un événement pluvieux est très important. Donc à partir du moment où en fait il sera en incapacité de tout stocker, les eaux supplémentaires vont complètement ruisseler ou se déverser dans la Seine et pouvoir en fait avoir un impact sur la qualité bactériologique, là j'entends, du cours d'eau.
Il faudra aussi, selon cette ONG, raccorder toutes les péniches au réseau d'assainissement. Des efforts ont été faits, il n'en reste qu'une 20aine sur 250 à traiter. La mairie de Paris a investi plus d'1 milliard d'euros pour rendre la Seine baignable aux sportifs dès cet été et au public en 2025. L'ONG veut pouvoir continuer ses prélèvements pour vérifier la qualité de l'eau en toute transparence.
Célia Quiret, merci. Le mois dernier, la préfecture de Paris avait insisté. Il n'y a pas de plan B pour les épreuves des Jeux prévus dans la Seine.
Des kilos de cannabis saisis chez Madame la maire.
C'était hier à Avallon dans l'Yonne. Opération anti-drogue et découverte embarrassante. 70 kilos de shit donc au domicile de l'édile. Delphine Evenou, elle est en garde à vue avec 2 de ses frères et 5 autres personnes.
Si l'opération PlaceNet XXL a débuté dans Lyon il y a quelques jours, la brigade de recherche de la gendarmerie d'Avallon travaillait-elle depuis plusieurs semaines déjà sur un vaste trafic de stupéfiants. Parmi les 7 personnes placées en garde à vue, la mère d'Avallon, Jamila Absaoui donc, mais également 2 de ses frères, dont l'un est connu pour trafic de stupéfiants. Ont-ils placé la drogue dans une dépendance de la maison de l'élu à son insu? C'est ce que les enquêteurs vont essayer de savoir lors de ces gardes à vue qui peuvent durer jusqu'à 96 heures. Des perquisitions ont aussi été menées à l'hôtel de ville, dans la pharmacie où travaille la mère et dans d'autres domiciles. En plus des 70 kilos de cannabis, précise le procureur de la République d'Auxerre, près d'un kilo de cocaïne, 7000 euros en liquide et des lingots d'or ont également été saisis à Avallon et dans ses alentours.
Delphine Evenou, baptisée PlaceNet, est lancée début octobre. L'offensive très médiatique contre le travail trafic de drogue a permis d'arrêter plus de 7000 personnes et de saisir 3,5 tonnes de drogue. Bilan d'un peu moins de 500 opérations données hier par Gérald Darmanin sur X. Soupçonné d'avoir tué avec préméditation 4 jeunes hommes ont été mis en examen pour assassinat hier soir. Dans l'enquête sur la mort de Chemseddine, 15 ans, tabassé à la sortie de son collège de Viry-Châtillon jeudi dernier. Parmi les mis en cause, deux frères de 17 et 20 ans qui n'auraient pas supporté que leur sœur discute de sexualité avec la victime.
Dans la bande de Gaza, l'offensive sur Rafah se prépare.
C'est Israël qui prévient dans la foulée du retrait militaire de la ville de Khan Younes après des mois de combats contre le Hamas. Rien de réjouissant, hélas, pour l'ONG Oxfam présente sur place.
Ça fait un peu froid dans le dos car ils affirment qu'ils se retirent afin de préparer de futures opérations. Donc d'une certaine façon, c'est affirmer une fois de plus un rejet de tout potentiel cessez-le-feu à venir. On sait qu'il y a actuellement des discussions concernant des trêves, mais en l'occurrence, il n'y a rien sur les frappes aériennes. Un simple retrait des troupes à terre, c'est nettement insuffisant. Et on a besoin d'un cessez-le-feu permanent avec l'ouverture des frontières pour pouvoir avoir un afflux conséquent d'aide humanitaire. Aujourd'hui, on sait qu'il y a à peine un cinquième des besoins pour la population de Gaza qui sont couverts. De toute évidence, ça ne s'inscrit pas dans une optique positive à court terme.
Nicolas Jandot, responsable humanitaire d'Oxfam France, joint par Valérie Crova, la guerre dans la bande de Gaza au cœur du grand entretien dans quelques minutes. Un coup de pression sur les élus du Congrès américain, signé Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Si le Congrès n'aide pas l'Ukraine, en débloquant les 60 milliards de dollars d'aide attendue, l'Ukraine perdra la guerre. Voilà ce que dit Zelensky au moment où les frappes russes dans l'est du pays obligent les autorités à faire évacuer les enfants de la région de Soumy. Leurs familles seront mises à l'abri dans les jours qui viennent. Reportage Agathe Mahué avec des bénévoles qui aident aux évacuations.
On les retrouve à l'aube, au nord-est de Kharkiv, avec leur petite voiture déjà 3 fois réparée. Le pare-choc arrière tient avec du scotch. Dmitro et Maxime préviennent Rosa qu'ils sont en route pour venir la chercher, elle et ses deux enfants, dans l'un de ces villages à portée de bombardement russe, à une trentaine de kilomètres de la frontière. Au bout de 2 heures de trajet sur des routes pleines de trous et de poussière, voilà le village. Rosa est fin prête avec son petit garçon handicapé Nikita et sa petite sœur Tania.
C'est trop effrayant ici et je suis seule avec les enfants. On entend les boums tous les jours.
Rosa n'emporte que quelques sacs.
Je n'ai pas vraiment envie de partir. J'espère que nous reviendrons chez nous.
Tania, qui a 9 ans, serre très fort son gros chat en peluche. Elle dit que peu lui importe de s'en aller, car elle n'a plus d'amis ici. La moitié du village est déjà partie. La famille va loger à Kharkiv provisoirement, emmenée par les deux bénévoles.
Ce qui est le plus motivant, c'est quand on quitte ces zones dangereuses. On voit le stress dans les yeux des gens. Une fois à l'abri, ils vous disent merci.
Dmitro, lui, n'a pas d'enfant. Mais si j'en ai un jour, dit-il, je veux pouvoir lui dire que j'ai contribué à sauver des vies pendant la guerre.
Reportage Agathe Mahué, Jérémy Tuil et Yachar Fazilov. Cette fois, c'est le capot du moteur qui s'est détaché d'un Boeing au décollage. C'était hier matin. L'appareil de la Southwest Airlines, un 737-800, est retourné se poser à Denver, Colorado, aux États-Unis. L'agence américaine de l'aviation civile a de nouveau ouvert une enquête.
Et si vous passiez directement à la pharmacie sans aller chez le médecin?
Oui, pour un test et des antibiotiques contre l'angine ou la cystite. On attend toujours le décret d'application de cette mesure dont Gabriel Attal a reparlé ce week-end pour désencombrer les cabinets des généralistes. Encore faut-il qu'il reste suffisamment de pharmacies sur le territoire. Il enferme plus de 200 chaque année. La France est passée sous la barre des 20 000 officines. Le secteur Victor Delande, comme les maires ruraux, appellent à l'aide.
En 15 ans, près d'une officine sur 5 a fermé dans le pays. Les facultés de pharmacie ne font pas le plein à chaque rentrée et les repreneurs ne se bousculent pas dans les zones rurales. Philippe Bessé, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France.
Dans les premiers temps, ce sont des officines urbaines qui fermaient ou qui se regroupaient et donc il n'y avait pas de problématique d'accès aux soins. Mais maintenant, ça touche les pharmacies des villages qui soit ne sont pas reprises, soit ferment par difficultés économiques. Et là, c'est vraiment très embêtant pour l'accès aux soins et pour l'accès aux médicaments parce que après le médecin, c'est le pharmacien qui s'envoie du village et il n'y a plus du tout de solution de santé pour la population.
L'inquiétude grandit aussi du côté des élus. Gilles Noël est maire de Varzy dans la Nièvre et vice-président de l'association des maires ruraux de France en charge de la santé.
On a besoin d'être aux côtés de nos administrés pour faire en sorte de faire remonter cette information au niveau de l'État pour que tout puisse être mis en œuvre afin que cette profession reste présente sur nos territoires. On demande aussi que ça soit du cousu humain qui puisse être fait. L'idée de faciliter la reprise de pharmacie.
Faciliter ces reprises avec des aides financières, voici la première idée sur la table. L'autre piste serait d'expérimenter la possibilité de maintenir une officine ouverte dans un village, quelques jours par semaine, avec un employé, pas forcément un pharmacien. Selon nos informations, le gouvernement et l'assurance maladie devraient rendre leurs conclusions pour sauver les pharmacies françaises avant le début de l'été.
Victor Dolande, améliorer l'emploi des seniors. Ultime négociation aujourd'hui sur ce vaste dossier entre syndicats et patronat, alors que se profile une nouvelle réforme de l'assurance chômage. Voilà qui nous amène aux économies décidées par le gouvernement. Elle n'épargne pas la culture. Le budget du ministère est en baisse de 200 millions d'euros. Concrètement, ça veut dire que l'Opéra de Paris, par exemple, ou la Comédie Française vont perdre plusieurs millions chacun, ce qui est très inquiétant pour le monde du spectacle vivant. Stéphane Capron, des compagnies pourraient tout simplement disparaître.
6 millions d'euros pour l'Opéra de Paris, 5 pour la Comédie Française. Les coupes budgétaires auront de lourdes conséquences pour ces institutions. Et en cascade, ces économies vont impacter toutes les structures et notamment les salles de spectacle qui font la force de la décentralisation à la française, avec une conséquence qui se mesure déjà pour les compagnies de théâtre, de danse, de cirque. Elles ont des difficultés pour vendre leurs spectacles la saison prochaine. La diminution du nombre de représentations pourrait être de plus de 50% pour certaines. Une enquête de l'Association des professionnels de l'administration du spectacle révèle que 22% des artistes réfléchissent à l'arrêt de leur carrière ou à dissoudre leur compagnie. Les plus touchés seront les artistes émergents, car les programmateurs préfèrent se tourner vers des valeurs sûres, mais aussi les spectacles avec les grosses distributions, car on va leur préférer des seuls en scène moins coûteux. Cette crise va toucher aussi les techniciens. Beaucoup d'intermittents risquent de perdre leur statut. Pour les syndicats professionnels, c'est tout simplement une casse sociale qui s'annonce dans le monde du spectacle vivant.
Stéphane Capron, et puisqu'on parle budget, chacun regarde le sien et se demande comment éviter les frais souvent très lourds quand il faut passer au garage, faire réparer sa voiture, d'où le succès des pièces d'occasion. Il s'en est vendu 30% de plus l'an dernier. Il faut dire à Agnès Soubiran qu'acheter un pare-choc ou un carburateur d'occasion revient au moins moitié moins cher qu'une pièce neuve.
Ne les appelez plus casse automobile, mais centre pour véhicules hors d'usage.
C'est vraiment un commerce. Commerce de proximité, on est un comptoir, on demande la pièce et ensuite on va le chercher dans nos rayons.
Derrière son comptoir donc, Laureline Reynaud, directrice des opérations du Surplus Auto 13 près de l'aéroport de Marseille, gère un parc de 3000 voitures sur plus de 2 hectares pour répondre aux demandes des professionnels et des particuliers qui n'hésitent plus à se lancer.
Avec des tutos, toutes les pièces de carrosserie, les phares, les feux, les rétroviseurs, on va dire. De plus en plus, il y a des particuliers qui viennent pour justement réparer eux-mêmes leur voiture.
Car selon une étude menée par Opinionway, près d'un Français sur deux a déjà renoncé ou reporté une réparation en raison du prix des pièces détachées neuves. Francesco Fadibruno, expert automobile chez eBay.
Si je prends comme exemple un moteur complet d'une Renault Twingo 1, nous pouvons le retrouver sur eBay à 550 € versus un prix constructeur pièce neuve supérieur à 4 500 €.
Des pièces garanties entre 6 mois et 2 ans. À noter que depuis janvier 2017, les garagistes ont l'obligation de proposer deux devis, un avec des pièces constructeurs neuves, un avec des pièces d'occasion.
Agnès Soubiran, une soirée de foot, la 28e en Ligue 1, et Lyon engrange des points pour se rapprocher des compétitions européennes en battant Nantes 3-1. Toujours deuxième au classement, Brest l'emporte 4 buts à 3 face à Metz. Et Monaco renoue avec la victoire sur son terrain, 1-0 contre Rennes.
On n'a pas fini de l'écouter et de l'aimer, même si sa parole est devenue si rare.
Françoise Hardy est malade, elle le dit, elle milite pour l'euthanasie, mais c'est sur la musique qu'elle a échangé par écrit avec Mathieu Culeron, à l'occasion de la sortie d'une double compilation agrémentée de morceaux étonnants.
Oui, Françoise Hardy qui nous a confié ne pas se sentir bien et qui a préféré nous répondre à ces questions rapidement par mail. Des réponses lues par une journaliste de la rédaction où la chanteuse nous parle avec passion de ces titres peu connus présents sur ces compilations.
Je me suis mise en devoir de faire une compilation de titres très peu connus et méritant de l'être davantage.
Et dans le répertoire parfois oublié de Françoise Hardy, il y a ce titre, magnifique chanson qu'elle interprète en allemand.
Träume est une chanson originale allemande que j'ai toujours adorée, mais qui n'a marché nulle part. C'était donc une occasion de la faire connaître.
Autre curiosité dans cette double compilation, ce duo avec Patrick Devers.
Alors je t'ai dit mon amour,
ce n'est pas vrai.
J'avais découvert Patrick au Café de la Gare avec Coluche, Miu Miu, etc. Cette chanson me plaît toujours et j'aimais beaucoup Patrick Devers, que la musique intéressait plus que le cinéma.
J'ai peur que tu sois sourd, j'ai peur que tu sois lâche.
Parmi les périodes inoubliables pour Françoise Hardy, il y a évidemment celle passée avec Michel Berger, l'occasion de lui demander combien de titres sur l'ensemble de sa carrière évoquent d'une manière ou d'une autre Jacques Dutronc.
75% des chansons que j'ai composées ou juste écrites m'ont été inspirées par ce que je ressentais pour Jacques. Toute la partie parlée de messages personnels raconte mon vécu avec lui de cette époque-là.
Quelques titres que je connais d'elle, une compilation très personnelle, supervisée par Françoise Hardy elle-même.
Quand je t'apprends sur le bout de mes doigts.
Voilà, double compilation à se procurer rapidement, urgemment, si j'ose dire, et longue interview à lire sur franceinter.fr, signé Mathieu Culeron.
Et merci Florence Paracuellos. Comment vivre sans permis de conduire, surtout quand on habite à la campagne? Une question au cœur du dernier documentaire de Mélissa Thuriot. Elle sera au micro de Mathilde Serrel tout à l'heure à 9h20.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques. Devis et rendez-vous en ligne, tout simplement, sur Euromaster.fr.
Et c'est un temps instable qui revient ce matin, Marie-Pierre Planchon.
Eh oui, car en fait, on a de l'air plus froid qui arrive par l'ouest à cause de la tempête Pierrick qui se rapproche et ça crée un conflit de masse d'air et ça engendre des orages donc qui éclateront entre deux éclaircies à l'ouest d'une ligne qui relierait la Meuse au Limousin en descendant vers l'Occitanie. En revanche, vous aurez une petite accalmie des Charentes au Pays Basque, comme d'ailleurs sur les régions de l'Est où le ciel reste plus ou moins voilé comme sur la Méditerranée, excepté le Languedoc-Roussillon, où on a pas mal d'entrées maritimes, avec un vent qui se renforce sur les Pyrénées jusqu'à 100 km par heure ce matin, mais aussi sur le Massif central et dans la vallée des Rhônes, sous un mercure très contrasté, entre les 4 degrés dans la Manche à Condé-sur-Vire, alors qu'on relève 18 au sud de la Corse.
Et une vigilance cet après-midi sur le Finistère?
Oui, la tempête Pierrick se rapproche de la façade atlantique, ça va engendrer des vents soufflants jusqu'à 130 km heure, et près des côtes et 80 à l'intérieur des terres, associé à un fort coefficient de marée, bien le Finistère est donc placé en vigilance orange, vent violent, mais aussi vague submersion à partir de 6 heures à surveiller en soirée toute la nuit. Ailleurs, des Hauts-de-France jusqu'au centre-Val de Loire, aux Pyrénées, le temps sera très orageux. Attention aux giboulées et aux bourrasques, alors que les régions de l'Est et méditerranéennes garderont un temps plus ou moins ensoleillé, sous le vent également. Un mercure contrasté entre les 14 à Brest et les 28 à Grenoble. Vous aurez 20 à Lille, encore 22 à Paris et Bordeaux et 24 à Pau, qui a battu son record de chaleur samedi avec 32 degrés. Demain, la baisse, Simon va continuer pour retrouver des normales de saison. On se rend plan que mars gris, avril pluvieux, font l'an fertile et plantureux.
Plantureux carrément. Merci Marie-Pierre Planchon. 8h18, géopolitique.